France Culture.
Esprit de justice qui vous propose ce soir un voyage dans le temps. Dans le temps et plus encore dans les origines. Les origines, ce que notre invité de ce soir appelle les formes premières du droit et au fondement, au fond desquelles il place le sacrifice. On parle toujours du droit sur le mode antérieur, comme quelque chose qui préexiste et auquel il faudrait se conformer. Mais qui avait-il avant le droit? Comment est-il né? Esprit de justice vous propose de remonter très loin dans le temps aux origines de notre droit. Cette origine, elle n'est pas à chercher dans des grands concepts aux contours un peu vagues, comme le droit, la coutume ou la religion. Non, cette origine est à chercher dans des éléments très concrets, très prosaïques de la vie quotidienne, dans la cuisine du droit. Et c'est le cas de le dire d'ailleurs, parce qu'il faut peut-être aller chercher les origines, comme on va le voir ce soir, de notre culture juridique, au fond des marmites. Et ce que je vous propose de faire en compagnie de Robert Jacob. Robert Jacob est un universitaire franco-belge. Et il est l'auteur d'une véritable somme, d'un livre de référence qui repense les formes premières du droit en Occident. Il est juriste et historien, directeur de recherche au CNRS et professeur émérite aux universités de Liège et aux facultés Saint-Louis de Bruxelles. Et il vient de publier, ça a été publié ces dernières années, et le dernier, l'année dernière, il y a quelques mois, les formes premières du droit en Occident, tome 1, la parole impérieuse, en 2020, tome 2, en 2024, le sacré et le juridique. Alors, il s'intéresse à la forme romaine du droit, qui est une forme bien spécifique et qui doit être explorée par les règles d'une méthode historique exigeante qui inclut l'anthropologie et le pari. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, le pari que je voudrais relever ce soir pour bien comprendre, c'est de partir d'un événement. Un événement qu'on va essayer de décrire par le menu, et cet événement, c'est un sacrifice.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir Robert Jacob.
Bonsoir Antoine Garapon.
Merci d'avoir répondu à mon invitation. Et alors, ma première question, elle est très prosaïque, je vais vous demander de vous livrer, expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Comment ça se passait concrètement? Expliquez aux auditeurs. Et là, on va parler d'une période qui remonte à 4-5 siècles avant Jésus-Christ.
On va parler d'une période qui remonte à 4-5 siècles avant Jésus-Christ. Mais dans ces grandes lignes, le sacrifice romain ou le sacrifice grec ou celui des Hébreux, celui des Chinois, ou celui qu'on pratique encore d'ailleurs dans certaines régions, ce sacrifice obéit à des grandes constantes anthropologiques qu'on retrouve d'une culture à l'autre. Alors, j'ai une notion très concrète du sacrifice.
Alors, allez-y, expliquez-nous comment ça se passe.
Il ne s'agit pas de quoi que ce soit que l'on puisse appeler sacrifice. D'ailleurs, il ne s'agit pas non plus de quoi que ce soit que l'on puisse appeler droit, qui est mon objet. Il s'agit bien de la forme romaine. Il ne s'agit pas de quoi que ce soit qu'on appelle sacrifice, mais très précisément du sacrifice animal, donc qui est une opération religieuse pratiquée dans toutes les cultures, au moins celles qui ont atteint le stade de l'agriculture. On le trouve beaucoup moins ou même pratiquement pas chez les chasseurs-cueilleurs. Toutes les cultures d'agriculteurs de l'ensemble du vieux continent, donc Eurasie et Afrique. Et partout, on a la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une série d'opérations préparatoires et puis des cérémonies plus ou moins grandioses, ou d'ailleurs qui le sont éventuellement moins, mais qui se terminent toujours, c'est le stade final de l'opération, et c'est le stade qui est recherché, qui se termine toujours par un repas des dieux et des hommes, c'est-à-dire que l'animal est sacrifié, dépecé, cuisiné, une partie est destinée aux dieux, une partie, en revanche, est destinée à la convivialité des hommes. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'il est créateur et recréateur constamment du lien social. Lien entre les dieux et les hommes, lien des hommes entre eux.
C'est un banquet avec les dieux, c'est un banquet des hommes avec les dieux.
On peut le définir comme ça, c'est un banquet des hommes avec les dieux. Alors, partout dans le monde, les dieux consomment des chairs qui sont brûlées, hein, le mode de consommation typique des dieux, c'est l'inhalation de la fumée. Donc on fait brûler certaines parties de l'animal. Alors en Rome, à Rome ou en Grèce, ce sont souvent des entrailles qui sont brûlées sur l'autel et dont les fumées montent vers les dieux.
Les dieux qui se nourrissent de cette fumée, c'est l'instrument de communication.
Voilà, c'est l'instrument de communication avec les dieux.
Hein. Alors c'est quelque chose qu'on va retrouver, ça va durer, parce que je pense à l'encens, les visions que nous avons de l'encens dans les rites chrétiens, c'est de la fumée qui monte vers le ciel, et donc c'est de là d'où ça vient.
Oui, toutes les religions en fait communiquent avec la divinité par des fumigations. Le mot grec qui désigne le sacrifice, d'ailleurs thusios, est lié à un verbe tuein qui signifie bouillir, ébouillanter, faire de la fumée. Donc je renvoie au livre de Marcel de Tienne et de Jean-Pierre Vernant sur le sacrifice qui s'intitule d'ailleurs La cuisine du sacrifice. Dans le monde grec, parce que le sacrifice se termine par une grande cuisine avec la part des dieux et avec la part des hommes et qui exige des préparations culinaires spécialisées dans les deux cas.
Alors, si vous me permettez cette comparaison un petit peu rustre, un sacrifice, dans le fond, on dirait c'est un barbecue rituel.
On peut le définir comme ça.
Voilà, un barbecue. Alors, le barbecue, on commence par choisir un animal.
Oui.
Sa première opération, ça se fait pas n'importe comment.
Alors, ça ne se fait pas n'importe comment, et là, il y a de grandes différences d'une culture à l'autre. Je crois que pour ce qui concerne le monde romain, j'ai proposé de distinguer deux modèles qu'on distingue dans les premiers récits de la création de Rome. Un modèle qui est plutôt aristocratique, c'est-à-dire un modèle dans lequel l'homme noble, propriétaire de fortune, et donc de bétail, c'est la fortune, se marque dans le bétail, fournit ce qu'on appelle des grandes victimes, grandes victimes ou victimes majeures, oui, des bêtes à cornes parmi lesquelles règne le seigneur taureau, qui est l'animal favori de Jupiter. Donc un sacrifice qui marque une supériorité du donneur sur les receveurs, puisque le donneur de l'animal est toujours en position de supériorité par rapport aux convives. Et puis un autre sacrifice, alors qui est le sacrifice qui me paraît plus typiquement juridique, qui est le sacrifice du porc. En réalité, le porc est une victime, alors au contraire, mineure. C'est un animal assez commun, tout un chacun peut en posséder, et puis la truie est une femelle très très féconde, donc on produit toujours abondamment des porcelets. Or, les sacrifices qui sont en rapport avec la formation de la norme juridique passent toujours par le sacrifice du porc. Et je vais jusqu'à dire que c'est autour du sacrifice du porc et autour du repas du porc que se crée la première forme symbolique de l'égalité juridique, parce que dans ce sacrifice-là, en tout cas, tous les participants sont mis à parité.
C'est ça. Et il n'y a pas la supériorité du donneur, on pourrait dire.
Voilà.
Voilà. C'est ça. Alors, comment ça se passe ensuite? Une fois qu'on a choisi un animal, l'animal doit être sans défaut.
L'animal doit être sans défaut, on ne peut pas sacrifier un animal de bât ou un animal de labour, il ne doit pas avoir été attelé, il ne doit pas non plus boiter, ni etc. Enfin, il y a toute une série de critères physiques. Et puis il y a une phase de préparation qui aboutit toujours dans un premier temps à libérer l'animal de la domesticité, au moins à le libérer symboliquement de la domesticité.
C'est ça, on le met, il peut divaguer où il
voilà,
veut.
Voilà, il peut divaguer, il peut aller dans la nature, il est toujours plus ou moins sur surveillance, évidemment. Oui. Il vaudrait mieux qu'il ne s'échappe pas. D'ailleurs, quand il s'échappe, ça fait beaucoup de problèmes. Oui. Mais l'idée, c'est que l'animal doit bénéficier d'une phase de liberté, une phase d'errance, et qu'il doit se prêter spontanément, volontairement au sacrifice. Il doit marcher, donner l'impression de marcher librement vers l'autel, de donner des signes d'assentiment, donc par exemple à Rome, incliner l'encolure, et alors lorsque l'animal donne un signe d'assentiment ou de contentement, on y voit la preuve que les dieux sont contents. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, alors encore une fois, dans toutes les cultures du sacrifice, donc que ce soit dans l'Antiquité occidentale, ou en Inde, par exemple, ou en Chine, etc.
Les auditeurs vont se représenter ce cliché qu'on a tous dans la tête, mais qui est une réalité, des vaches sacrées, des vaches errantes.
Oui, voilà.
En Inde.
Alors voilà, la vache errante, c'est ce qui se passe quand on interrompt le sacrifice, c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné dans l'histoire de l'Inde une interdiction de la violence, le principe de la non-violence qui s'est exprimé symboliquement par l'interdiction de sacrifier, en tout cas les bovins, ça ne s'applique pas nécessairement aux autres animaux, vous n'avez pas compris comme ça, mais on ne peut pas sacrifier le bovin, alors qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste l'animal sacré, qui est un animal errant, et c'est la fameuse vache sacrée caractéristique de l'hindouisme.
Alors, il faut que les auditeurs écoutent bien tous ces détails. Pour l'instant, on ne voit pas très bien le rapport avec le droit, mais on va le voir, on ne va pas tarder à le voir. Alors, on décore l'animal, Robert Jacob, on lui met du ruban, on lui met des bandelettes.
Oui, il doit être à l'honneur.
Il est à l'honneur. Il est à l'honneur. Et alors, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, quand on pense à la défense des animaux, à la souffrance animale, il ne doit pas savoir ce qui va lui arriver. Il faut qu'il fasse comme s'il consentait à participer à la vie des hommes.
Oui. Et en fait, ce qui est très dérangeant, c'est le moment où il manifeste alors au contraire des signes de défense, donc où il se dérobe, ou alors le processus tourne mal, l'animal commence à crier, à se défendre, etc. Alors là, on va vers l'échec sacrificiel, c'est-à-dire que ce qui est recommandé, c'est de retirer l'animal du sacrifice, il s'est rendu lui-même impropre au sacrifice, parce que son comportement dévié est le marqueur du refus d'acceptation de la victime par les dieux.
C'est ça. Oui. Alors, vient un jour le jour J. Vient le jour J, et comment est-ce qu'on va réussir ce tour de force, Robert Jacob, de faire croire à tout le monde que l'animal consent à son sacrifice et que donc, finalement, c'est une forme de réconciliation avec les dieux, on pourrait dire.
Je crois qu'on le fait croire en amenant l'animal à manifester des signes qui sont considérés comme des signes de consentement. Bon, par exemple, le baisser l'encolure au moment où il reçoit le coup.
Le coup fatal.
L'atmosphère, il y a d'ailleurs un fond musical quand on procède à un sacrifice. Il y a une ambiance qui est une ambiance qu'on essaie de rendre feutrée. En fait, tout le décor rituel d'un sacrifice va vers l'adoucissement. Il faut surtout pas donner l'impression de la violence.
On fait quelque chose de cruel.
On sait qu'elle est contenue dans le sacrifice, bien entendu, mais elle est niée, elle est repoussée. Le sacrifice doit se dérouler dans une ambiance d'unanimité.
Voilà.
L'accord
avec les dieux.
L'accord avec les dieux. Voilà, c'est ça.
Alors, il y a une opposition sur laquelle vous insistez, je pense aussi à ce que disait Lévi-Strauss, c'est le bouilli et le brûlé. C'est-à-dire, cet animal, il y a une partie qu'on va brûler, donc ça va fumer, il va y avoir cet instrument de communication, ce vecteur de communication avec les dieux, mais le reste est bouilli.
Oui, alors le reste est bouilli, ou il est rôti, ou il y a des modalités supérieures de cuisson. C'est-à-dire que il y a à la base de la lecture symbolique du repas sacrificiel, il y a à la base une espèce de hiérarchie des saveurs, de hiérarchie des goûts et des degrés de cuisson, qui est de nouveau un inconstant ou un invariant anthropologique, c'est-à-dire qu'on retrouve d'une culture à l'autre. C'est-à-dire que manger cru, c'est du côté de la sauvagerie, du côté du refus de la culture, du refus de la civilité. Si on mange rôti, on s'est déjà un peu dégagé, mais pas très bien, parce que le rôti implique un contact direct entre la chair et la flamme. Alors l'idéal est de passer au bouilli. Donc c'est le bouilli qui est le signe de la civilité, parce que le bouilli intègre, nous sommes dans des cultures d'agriculteurs, dans des sociétés d'agriculteurs. Donc le bouilli intègre à la fois l'élément végétal, les légumes et la chair animale. Et alors le sommet pour les Romains, et nous y voilà, le sommet pour les Romains, c'est la cuisson en sauce. Si je vous traduis ça en latin, ça se dit in iure. L'animal doit être dans du jus de cuisson. Hein, et ça, là, on a un texte de Varron dont on trouve des correspondants aussi chez Aristote. Il dit, mais la cuisson in iure, la cuisson de la viande telle qu'elle produit une sauce, c'est à la fois un sommet gastronomique, et puis dans une échelle des valeurs, c'est un sommet, parce que c'est là que la société se détache le plus de tout ce qui est sauvagerie, violence, agressivité. L'unanimité, la convivialité, elle se crée dans ce degré supérieur de la cuisson en sauce. Pour les hommes, alors, parce que là, les dieux sont complètement à l'extérieur de cette partie du repas. Les dieux ont eu leur part, ont pris soin aussi de cuisiner.
Ils sont pacifiés.
Mais ce qu'on a cuisiné, on le brûle, puisque eux, pour consommer, inhalent les fumées.
J'attire l'attention des auditeurs, vous l'avez déjà entendu, mais je voudrais insister là-dessus. Ça veut dire que ignorer, ça veut dire en latin « dans son jus », et dans son droit.
Oui,
c'est le même
évidemment.
Mot.
Bah oui, c'est le même mot, oui. Voilà. Et c'est d'ailleurs le point de départ, de mes recherches, qui parfois était un peu dérangeant, parce qu'après tout, quel rapport entre le droit et la sauce.
Oui.
Le jus de cuisson. Donc en fait, il y a un mot qui est pratiquement indo-européen, parce qu'on en trouve des équivalents dans toutes les langues, et qui est le mot jus, qui désigne le jus de cuisson, et qui est un mot tellement familier qu'il a débouché sur notre jus, que nous employons tous les jours de manière absolument familière. Ce même mot désigne à Rome le droit, et alors c'est ici, si vous voulez, que mes propres recherches me font décrocher par rapport à tout ce qui avait toujours été enseigné sur ces questions. On a toujours vu dans le droit une entité mystérieuse, pleine de noblesse, et c'est comme ça qu'on l'a rattaché alors à la coutume ou à la religion
ou
au mythe, et que donc on a situé son origine en dernière analyse dans le mystère, en dernière analyse la forme ius n'a pas d'origine. Alors précisément, toute ma démarche a consisté, au moins dans son point de départ, sinon dans son développement, mais m'affranchir complètement de cette idée et à poser la relation d'homologie entre la cuisson des aliments comme forme supérieure de la convivialité des hommes et la norme juridique.
Voilà. C'est ça. C'est extraordinaire à vous entendre, Robert Jacob, c'est que nous gardons dans la langue française entre le justice et le jus, il y a une partie qui est la même.
Les sonorités s'entendent toujours.
C'est ça. Et donc, les sonorités s'entendent toujours. Ça veut dire qu'en fait, ça donnait lieu à des jeux de mots, d'ailleurs, en latin, cette convergence. Mais ça veut dire que nous gardons toujours dans la langue française, 25 siècles ou 30 siècles après, mémoire de ce lien originaire très concret du jus et du jus.
Tout à fait.
c'est ça.
Tout à fait. Et d'ailleurs, si le mot « ius » avait subsisté, si le mot « ius droit » avait subsisté, il aurait donné en français le jus. Nous parlerions du jus au lieu pour nommer ce que nous appelons le droit.
Alors, c'est ça, mais alors expliquez-nous comment on passe du droit au jus. Là, il y a un passage à faire,
oui, Robert Jacob. Il s'est produit un phénomène à l'extrême fin de l'Antiquité, c'est que les rituels romains n'étaient plus compris du tout. Donc ils ont été tout à fait perturbé par cette mutation majeure qui a été l'avènement du christianisme. Et quand le rituel est parti, la notion qui allait avec, si je puis m'exprimer familièrement, la notion qui allait avec, c'est-à-dire le droit ius, le ius comme norme juridique, a disparu aussi. Oui. Et donc, il s'est conservé dans la langue latine avec un sens tout à fait différent de celui que lui donnaient les Romains, mais dans la langue populaire, il a tout à fait disparu. Pour reparaître, alors beaucoup plus tard, mais il faudra les facultés de droit et l'étude de la langue savante pour que nous retrouvions un adjectif juridique dont nous avons fait l'adjectif du mot droit.
C'est ça. Mais alors, il y a quand même, entre-temps, vous parliez du christianisme qui chasse le sens de ces repas sacrificiels. N'empêche que le christianisme, il fait de la messe un rituel où on va incorporer le sang de la victime.
Oui.
C'est quand même pas très très loin de ce repas sacrificiel, Robert Jacob.
Non seulement nous ne sommes pas très loin de ce repas sacrificiel, mais nous y sommes. On appelle toujours la messe le sacrifice, le sacrificium en latin, dans la langue des clercs, parce que ce sacrifice est devenu un sacrifice mystique. La victime, le Christ, il y a dans l'histoire du christianisme, il y a un seul sacrifice qui est celui du Christ, et le Christ a enseigné à reproduire son sacrifice de nouveau par la mendication, de nouveau par le repas du corps et du sang du Christ, et les chrétiens, à chaque messe, communient, hein, c'est l'idée de communion, c'est l'idée d'unanimité, hein, unanimité au départ, unanimitas en latin, ça veut dire union des âmes, c'est l'union des âmes, avec Dieu, dans une commensalité. C'est le repas, c'est ce qu'est devenu le repas sacrificiel qui a fait l'économie, bien entendu, de la mise à mort de l'animal.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir aux origines de notre droit, origines que on peut voir dans un repas sacrificiel, un repas d'un animal qui produit du jus. C'est l'hypothèse en tout cas que défend Robert Jacob, historien et juriste et anthropologue, pourrait-on dire aussi, qui a choisi de nous faire entendre cette ère de augure printanier du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, qui était interprété ici par l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
France, comme il se doit, sous la direction de Mikko Franck. Alors, Robert Jacob, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, quand on boit, ensemble, qu'on consomme ensemble le jus de cuisson de l'animal sacrifié, de l'animal qui est une sorte de pot-au-feu, là on parlait de barbecue, on est passé au pot-au-feu, si vous passez l'expression, c'est associé à un serment. Un serment sacrificiel.
C'est ça. C'est ça. Il faut passer par le serment sacrificiel. C'est-à-dire que là nous avons pour Rome une cérémonie qui est décrite en détail par Tite Live et qui est le texte, à mon sens, majeur pour aborder cette question. C'est-à-dire que nous avons des partenaires qui nouent entre eux un traité de paix. Ils ont préparé des porcs. Hein, c'est le sacrifice du porc qui est j'estime qu'il est à la base du lien juridique
et de l'égalité juridique
il faut que les parties soient à égalité, se donnent pour égal dans le pacte. Le porc est d'abord assommé, ça c'est la caractéristique de tous les sacrifices romains, c'est qu'il y a un étourdissement préalable. Nous savons que l'étourdissement préalable n'est pas présent partout, mais à Rome il est vraiment de rigueur. Donc l'officiant assomme le porc avec une pierre, et au moment où il l'assomme, il prononce un serment. La partie que je représente est la première à défaillir, faillir plutôt à la parole que je viens de prononcer, eh bien à ce moment-là, toi Jupiter, frappe cette partie comme moi maintenant je frappe ce porc. C'est-à-dire que la parole du sacrifiant crée un lien d'homologie entre le coup de Merlin, qui est l'acte final dans lequel on obtient l'assentiment définitif de la victime, entre ce coup de Merlin et ce qu'on va appeler, ce que les Romains vont déjà appeler la sanction, c'est-à-dire le fait que la norme ayant été posée, l'image de la sanction, ce sera celle du sacrifice de la victime. Et alors, le lien avec le ius, c'est-à-dire que cette parole qui est prononcée par celui qui s'engage, cette parole, elle est liée au jus de cuisson de l'animal qui va se produire après, dans la phase ultérieure du sacrifice, lorsqu'il sera cuisiné, qui va se produire par un rapport d'homologie qui, de nouveau, n'est pas propre à Rome, mais qu'on retrouve dans beaucoup de cultures et de contextes. C'est-à-dire que, pour beaucoup de cultures, et pratiquement là aussi pour toutes, qu'est-ce que c'est que la parole? Quand on essaie de se représenter la parole, de la rendre visible ou tangible, eh bien, c'est pratiquement partout un fluide corporel, un fluide qui émane du corps. Alors, ce fluide est bien entendu la salive, hein, c'est la salive qui est le fluide premier, mais on rencontre partout, dans toutes les langues, dans tous les horizons, cette idée que la parole est un fluide qui émane du corps du locuteur, qui à un moment donné, d'ailleurs, échappe, devient abstrait, devient objectif, échappe au corps du locuteur, mais qui se représente toujours comme un fluide qui est parti de lui.
Et qui est aspiré, en quelque sorte, par la personne qui l'écoute.
Qui est aspiré ou partagé par celui qui l'écoute. C'est-à-dire que si je prends une série d'exemples, l'idée de la parole fluide, nous avons par exemple en Grèce, dans la langue grecque, le verbe « rein » qui signifie deux choses, il signifie couler. Un fleuve coule, et parler. Et c'est le mot qui nous a donné la rhétorique, comme art de la parole. Nous avons presque partout des distinctions entre les fluides positifs et les fluides négatifs. Mmh. Donc il y a des bonnes paroles, qui sont des paroles de miel par exemple, mmh. ou des paroles d'huile ou des paroles de cuisson chez certains peuples africains. Et puis alors au contraire, des paroles négatives, comme par exemple le fiel ou la bave.
Les paroles fielleuses,
oui, c'est ça. Le français bavard.
Bavard, baveux. Mais alors ça veut dire qu'en fait, avec cet instrument du sacrifice qu'est le jus, le yous, le droit, on va créer une obligation sacramentelle, c'est-à-dire on s'oblige mutuellement à respecter une norme. Alors c'est un traité de paix, si c'est une guerre interne ou internationale ou entre clans, on s'engage à respecter les pactes et on s'engage. Finalement, c'est un serment qui, à partir du jus, est à la fois religieux, il vient d'un sacrifice, politique, mais surtout civique, juridique. Robert
oui.
Jacob.
Alors voilà, c'est-à-dire que entre le sacrifice et le repas sacrificiel, il y a l'acte que les Romains appelaient jurare, qui est toujours le verbe français jurer, c'est-à-dire faire serment. Si vous prenez le verbe jurare et si vous le comparez avec une foule d'autres verbes latins, donc pugnare, combattre, c'est faire le pugna, amare, c'est faire la mort, eh bien jurare, c'est faire le jus.
C'est faire le jus.
C'est faire le jus. Cette production du jus, elle est à mon sens inscrite. Alors là de nouveau, c'est un problème que je crois résoudre de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire en prenant le verbe pour ce qu'il est morphologiquement, jurare, c'est faire du jus, alors que pour des auteurs, pour d'éminents linguistes, c'était un problème, parce que si on se représente le droit comme une entité extraite de la société, quelque chose qui plane au-dessus des hommes, quelque chose que les hommes ne produisent pas eux-mêmes, mais qui leur est imposé en quelque sorte de l'extérieur. Mais alors à ce moment-là, ce lien entre jurare et ius, donc entre l'acte de jurer et la norme juridique, c'est un lien qui est problématique. Alors moi, ce que j'ai avancé pour prendre une formule simple, c'est que en fait le lien de l'acte de jurer et du jus juridique, ce n'est pas le problème, c'est la solution.
C'est
il faut regarder les choses en face et il faut essayer de décoder ce qui est une forme symbolique qui part d'un acte rituel.
Alors très concret.
De nouveau dans le concret, nous sommes dans le pratique qui part d'un acte rituel qui explique tout à fait la relation entre les deux termes.
Mais ce qui est intéressant, c'est que, à vous entendre, Robert Jacob, la sanction, c'est-à-dire ce processus d'auto-malédiction conditionnelle, mon sort, j'accepte par avance que mon sort soit celui de cet animal que je vais sacrifier, si je ne respecte pas les obligations confraternelles et juridiques. Alors, ça veut dire que la sanction va avant l'obligation.
Ça veut dire que la sanction est prévue, donc il y a obligation et la sanction est prévue. C'est-à-dire que l'acte, la parole du sacrifiant est conditionnelle. Si la partie que je représente ne répond pas aux obligations qui lui sont imposées par son engagement, alors toi Jupiter, frappe-le comme je vais frapper ce porc, c'est conditionnel et là on se projette dans le futur. Ce que les Romains appellent la sanctio, c'est une ce que j'ai fini par appeler une sanction d'avant,
une sanction d'avant,
qui se produit après le sacrifice et qui est éventuelle, parce qu'après tout, ce qu'on espère, c'est que précisément les parties sont fidèles à leur serment.
Bien sûr, c'est l'obligation juridique, c'est la punition, quoi, c'est brandir la punition pour les citoyens qui s'engagent. On voit le lien profond qu'il y a et que vous mettez en avant entre le sacrifice et la loi et l'obligation juridique. Mais je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à un personnage qui est curieux, qui est compliqué, Robert Jacob, c'est que c'est l'homo sacer, l'homme sacré. Et l'homme sacré, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'officiant, l'homme sacré, c'est le proscrit, au contraire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, ça c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre
aussi.
et que de nouveau je crois résoudre de manière assez simple. Parce que la réflexion sur l'homo sacer, qui est parfois une réflexion qui ne dépasse pas le stade de la sidération, comment se fait-il que les Romains appellent sacré à la fois ce qui est le plus respectable, ce sont les temples, les victimes, tout ce qui concerne la relation avec les dieux, et ce qu'ils vont considérer comme détestable, c'est-à-dire l'homme qu'ils bannissent et qu'ils se permettent de tuer sans rituel.
Et sans crainte de punition.
Sans procès, sans craindre l'opinion. Alors, il faut bien comprendre que toutes les sociétés anciennes connaissent cette forme de punition qui consiste à décréter qu'un individu déterminé est arraché au lien social, qu'il est voué à divaguer, peu importe,
vivre dans les bois,
en tout cas à fuir, vivre dans les bois, etc. Et que chacun, tout un chacun, tous ceux qui sont restés dans le lien social, ont la faculté de le tuer impunément. C'est un mécanisme qu'on rencontre dans la Grèce ancienne, par exemple, ce que les Grecs appelaient atimos, celui qui est sans honneur au départ et celui qui est soumis à ce type de régime. Et puis il y a ce personnage de la littérature anglo-américaine, ou du droit d'ailleurs anglo-américain, de la common law, qui s'appelle l'outlaw, et qui est exactement dans cette condition. Ou plus tard, le lyncher. Hein, il y a un rapport assez étroit entre le lynchage et l'outlawry, c'est-à-dire celui qui est expulsé et celui qui n'a pas droit au procès et même qu'il faut tuer en dehors de tout procès et en dehors de toute forme de condamnation régulière.
Alors ce que vous montrez, Robert Jacob, c'est ce lien, parce que ça boucle un peu avec ce que vous disiez avant. Finalement, cette personne qu'on rejette, qui est l'homme sacré, l'homo sacer, il est associé à une bête, comme s'il retournait à l'état sauvage.
Voilà. Alors, il est associé à une bête. C'est une association qui est assez régulière. Donc, assez régulière, je veux dire qu'on ne la trouve pas seulement à Rome.
On trouve au Moyen-Âge aussi.
Nous parlions de l'outlaw, oui. Au Moyen-Âge, l'outlaw, au moins à partir du milieu du Moyen-Âge, est assimilé à un loup. Hein. Il porte une tête de loup. Et on dit même, je ne suis pas sûr que les textes qui nous en informent aient correspondu vraiment rigoureusement à la pratique, on dit même qu'il y avait une prime d'abattage pour la peau de loup et prime d'abattage pour une tête d'outlaw. Le rapprochement était fait. Le rapprochement était fait entre l'animal sauvage et le proscrit. Alors à Rome, je pense que le rapprochement est fait avec un animal qui n'était pas au départ sauvage, qui était un animal domestique, qui était celui qui était destiné au sacrifice, mais qui, c'est précisément celui dont nous parlions, qui entre en défense, c'est-à-dire qui se dérobe à l'itinéraire normal du sacrifice, il s'enfuit, ou alors il se met à hurler au moment où on essaie de le présenter au repas des dieux et des hommes. Et d'ailleurs, il y a un texte, il y a une glose d'un érudit romain de l'Antiquité tardive qui le dit en toutes lettres et très simplement, l'homme sacer, c'est-à-dire celui qu'on peut tuer, c'est la victime fugitive, hein, fugiens, oui, victima. C'est la victime fugitive. Dès lors qu'une victime se dérobe, elle fournit un paradigme pour penser le proscrit. Mais pourquoi est-ce qu'elle fournit ce paradigme? Parce que, précisément, elle s'est dérobée avant même que le lien juridique ne soit créé, puisqu'il ne se crée que par le serment. Et alors, il y a au point de vue du symbolique, même si le cadre est un peu différent, il y a un rapprochement à ce stade qu'on ne peut pas manquer de faire, qui est le rapprochement avec le bouc émissaire de la Bible.
Oui, alors expliquez-nous, oui.
Alors, le bouc émissaire de la Bible, ça c'est un texte de la Bible qui est à la fois très connu et en même temps, il est rarement lu avec l'attention qu'il mériterait. Donc, on prépare pour Yahvé, on prépare pour Dieu deux boucs, et puis il y a un tirage au sort, il y a un bouc sur lequel tombe le signe de Yahvé et qui ira vers le sacrifice, et puis il y a un bouc sur lequel tombe le signe d'Azazel, c'est-à-dire du démon. Évidemment, on ne va pas sacrifier au démon.
Bien sûr.
Donc, le bouc qui va devenir le bouc émissaire qu'on va charger des péchés d'Israël, c'est le bouc qui est voué au diable, qu'on ne sacrifie pas, ça devient une victime impure. Dieu n'accepterait jamais ce genre de victime. Et alors là, on l'envoie dans le désert. Bon, ce qu'il faut bien noter, contrairement à des expressions qui ont fini par passer dans le langage courant, c'est que d'un côté, il y a un bouc victime et de l'autre, un bouc émissaire, mais qu'il n'y a pas de victime émissaire. C'est-à-dire le sacrifice ne crée pas lui-même l'exclu, au contraire, le sacrifice est inclusif. Le sacrifice reçoit... Il amène le bouc à le bouc consacré, le bouc normal, si je puis dire, à son itinéraire normal, qui est de servir l'alliance de Dieu et des hommes.
C'est ça, et qui va sceller le pacte, effectivement,
voilà.
qui a cette figure centrale qu'elle a dans le judaïsme et dans le christianisme,
c'est ça.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de chercher dans le sacrifice romain les racines, aussi bien les racines étymologiques que les racines anthropologiques de notre droit, en compagnie de Robert Jacob, historien anthropologue qui a sorti une somme sur cette question. Robert Jacob qui a choisi de nous faire entendre cet air superbe de Pergolèse, le psaume 109, Sicut erat in principio, c'est le cas de le dire de notre émission de ce soir, par les chœurs du nouveau collège d'Oxford et the Academy of Ancient Music, sous la direction d'Edward Higginbottom. Robert Jacob, un mot sur ce choix qui nous fait monter au ciel.
Oui, si vous voulez. Enfin, c'est une certaine inclination de ma part vers le baroque anglais.
Oui, oui, que vous aviez fréquenté quand vous étiez dans un collège à Oxford, notamment.
Trop peu.
Alors, donc, nous en étions à cette figure du proscrit. Et restons en Angleterre, si vous voulez bien, Robert Jacob, parce qu'il y a une figure dans le roman populaire anglais, bien sûr, c'est Robin des Bois. Robin des Bois, c'est le proscrit. Oui. C'est le proscrit qu'on peut tuer, qui se retourne en justicier.
Oui, mais alors c'est un proscrit. Bon là, il y a toute une littérature là, la littérature de l'outlaw en Angleterre, aux États-Unis, alors dans les pays scandinaves. Là, c'est une montagne. Ce serait l'objet aussi de livres et d'émissions particuliers. Là, il y a un renversement, si vous voulez. Le shérif de Nottingham, c'est la figure négative de l'État, tandis que le proscrit est héroïsé. Mais... c'est un personnage qui brave l'État, qui vit librement en forêt. Mais il y a quand même certains textes littéraires de la tradition de Robin des Bois, qui sont des textes qu'on chantait à certaines occasions dans les fêtes populaires anglaises. Il y a certains textes qui reviennent quand même à la violence, c'est-à-dire que le fait que le pouvoir, à travers son shérif de Nottingham et à travers les primes qu'il offre à ceux qui le poursuivent, se montre d'une extrême violence vis-à-vis du proscrit. Alors, la question romaine, c'est vraiment, ce n'est pas original que les Romains aient imaginé cette condition d'extrême exclusion. Ce qui est original, c'est qu'il l'ait appelé sacer, c'est-à-dire qu'il l'ait référé au sacrifice.
C'est ça. Et alors, est-ce que un mot, Robert Jacob, parce que vous avez un dégagement qui est intéressant, qui fait référence d'ailleurs aussi encore à la parole, c'est cette symbolique de la gorge. Cette symbolique de la gorge qu'on trouve notamment au Moyen-Âge, c'est-à-dire l'homo sacer, le proscrit, c'est quelqu'un, le loup-garou, on l'exécute en lui coupant la gorge.
Mais de nouveau, en réalité, c'est une figure de la parole.
Oui, c'est-à-dire, voilà.
C'est une figure de la parole, donc la gorge ou la gueule, ce goula, ça veut dire la gorge au départ. La gorge, c'est la parole inarticulée. C'est vraiment typiquement la figure négative de la parole. Le proscrit, c'est celui qui n'a plus la parole. Il est coupé de la société. Il est coupé de la société par la relation à travers la parole, et c'est pourquoi la gorge est un instrument, le lieu de la punition, vous dites égorgé, étranglé.
Le garrot dans cette exécution dans certains pays qui ne se pratiquent plus, notamment l'Espagne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout le bouquet métaphorique, tout le bouquet de symboles qu'il y a autour de ce proscrit, de cet homo sacer, qui est renvoyé à sa condition de sauvage, qui est exclu, qui ne communique plus avec la société, Robert Jacob.
Oui, c'est ça.
Mais alors, ça, c'est quand même, là on voit, et pour le comprendre, et je crois que les auditeurs l'auront compris, ça veut dire que le proscrit, l'homo sacer, c'est l'échec sacrificiel, c'est le sacrifice qui ne marche pas. C'est le sacrifice manqué. Et sacrifice manqué veut dire que on n'est pas dans une punition, dans une société hiérarchique et organisée, où on va rationaliser la peine. Là, le proscrit, c'est l'échec sacrificiel, c'est quelqu'un qui est en dehors du droit, qui est en deçà du droit, Robert
c'est
Jacob.
Ça. C'est-à-dire qu'en fait, là où nous n'avons gardé du lexique romain qu'un seul mot, qui est le mot sanction, les Romains, sur la même racine du sacré, ont formé deux concepts, consecratio et sanctio. Mm-hmm. Donc consecratio, c'est déclarer quelqu'un sacer, c'est le remettre à l'état d'avant le droit.
Donc dans l'état de nature.
Dans l'état de nature sauvage, nature qui est compris de manière négative, et pas du tout édénique, bien entendu. tandis que la sanction, c'est une punition qui n'exclut pas. C'est une punition qui reconstitue le lien juridique qui avait été troublé par le comportement déviant, qui ramène le déviant dans la norme, exactement comme le coup de Merlin du sacrificateur amène l'animal dans la norme, amène l'animal à son destin attendu. Et alors, donc ce serment sacrificiel, je crois qu'il détermine dans la très longue période et jusqu'à nos jours une certaine idée du temps. Comme temps juridique. C'est-à-dire que il y a au départ un avant et un après. Il y a ce qui s'est passé avant le sacrifice, et c'est ça la caractéristique des Romains qui les sépare des Anglo-Saxons dont nous parlions aussi. L'outlaw, c'est celui qui n'est plus à l'intérieur d'une sphère, qui est la sphère du law, qui se définit toujours d'ailleurs par la capacité d'être sujet de la justice, de plaider, d'avoir une parole qui vaille en justice. Le sacer, c'est celui qui est qui est remis dans le temps d'avant la parole, dans le temps de la sauvagerie, de l'auparavant, de l'acte générateur de droit. Et alors, le problème devient, alors, quel lien entre cela et ce qui nous en reste? Mais c'est précisément ce qui va se produire dans l'après du sacrifice, ou l'au-delà du sacrifice. Donc, le sacrifice lui-même crée une promesse de sanction contre le déviant, mais il a également un contenu, évidemment, et ce contenu, c'est la norme juridique. Et là, il faut, je crois, remonter de nouveau à la Rome ancienne et identifier
le contenu de ce serment.
Oui, et ce que j'ai appelé le noyau initial, oui. C'est-à-dire remontons à des communautés de paysans du Latium qui se réunissent autour du sacrifice du porc. Qu'est-ce qu'ils promettent? À quoi est-ce qu'ils s'engagent? Eh bien, ici, nous avons des idées qui sont assez claires et qui, là, sont données par les textes juridiques romains. Nous allons tout de même arriver
au droit,
à ce qu'on appelle faire du droit communément. Même si la question principale est de savoir d'où il vient et non pas ce qu'il est. Mais enfin, il faut tout de même s'intéresser aussi à ce qu'il est ou à ce qu'il devient. Ces gens du Latium se promettent qu'ils appellent le jus quiritium, le droit des quirites. Le droit des quirites, alors qu'est-ce que c'est que les quirites? Je fais de nouveau un peu d'étymologie, c'est co-wiri, ce sont les hommes qui se mettent ensemble. Il y a des hommes qui se mettent ensemble et qui promettent de se garantir mutuellement trois éléments, et c'est vraiment la base sur laquelle le droit romain va se développer, c'est la liberté, la propriété et la puissance paternelle. La liberté, ils se déclarent libres, et ils reconnaissent mutuellement leur liberté, par opposition à l'esclavage, dont d'ailleurs dans les conditions sociales de l'époque, nous sommes tout de même 500 ou 600 ans avant Jésus-Christ, dont ils sont continuellement menacés par des ennemis extérieurs. La propriété, parce que généralement cet acte d'avènement du droit quiritaire se fait dans une logique de partage du sol. On partage le sol et on le partage par parts égales. Chacun reçoit un lot qui est l'équivalent de celui du voisin. Là, le récit des origines, le récit des sept rois de Rome est rempli, et des débuts de la République d'ailleurs, est rempli de ces relations de partage du sol, partage égalitaire entre des citoyens, plébéiens et patriciens d'ailleurs. Le droit est inclusif. Il absolument ne faut pas imaginer. Là aussi, c'est un point.
C'est très égalitaire.
C'est un point aussi sur lequel je me sépare de pas mal d'idées reçues qui circulent lorsqu'on évoque le droit romain. C'est l'idée qu'il y aurait eu une classe privilégiée qui aurait eu accès à la condition de citoyen et de sujet de droit, et qui aurait été par hypothèse les patriciens. Et puis que, à la suite d'une d'une certaine évolution. On aurait fini.
La révolte plébéienne, oui.
Par y admettre la classe des plus pauvres, c'est-à-dire des plébéiens. Or, non. Je crois qu'il y a une égalité originaire qui va de pair avec une stratification sociale, bien entendu. Mais il y a une égalité juridique originaire. La propriété est la même pour tout le monde. Vous pouvez être propriétaire d'un lopin ou de milliers d'hectares. Dans notre droit, qui est toujours le même que le droit romain, la propriété juridiquement est la même. Elle s'analyse avec les mêmes textes.
Mais alors, Robert Jacob, il y a une troisième droit qu'on se garantit, et alors lui qui n'est pas égalitaire, quoi, qui n'est pas égalitaire pour tout le monde, c'est la puissance paternelle.
Alors, la puissance paternelle a un rôle très important, je crois, à Rome, parce que c'est une puissance paternelle hypertrophiée. Ces gens qui se réunissent et s'attribuent, se reconnaissent les uns des autres des droits, se donnent un pouvoir absolu, allant jusqu'à un pouvoir de vie et de mort sur leurs enfants, en tout cas sur leurs enfants de sexe masculin, sur leur fils. Et ça, c'est un pilier fondamental du droit romain qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Au reste, des juristes comme Gaius, juriste romain, ou des historiens comme Denis d'Halicarnasse, qui est grec mais qui écrit l'histoire romaine et qui voit Rome un peu de l'extérieur, ils font la même réflexion. Mais
quelle puissance paternelle !
Quelle mouche a piqué les Romains, surtout ! Quelle mouche a piqué les Romains de conférer au père un tel pouvoir, alors qu'on ne retrouve nulle part ailleurs ce genre de choses, hein ? Alors en fait, il faut constater que les pères romains ne sont pas habités d'une propension à tuer leurs enfants qui serait supérieure à celle qu'on rencontre dans d'autres milieux. Je crois qu'il y a des milieux où les meurtres des enfants par le père ont été plus souvent constatés que dans la Rome antique. Mais ils ont cette chose qui s'appelle le ius, et ça c'est important. Ils ont cette chose qui s'appelle le ius qui est en train de se dégager de la morale commune ou du vécu, qui est un abstrait, à mon sens, créé au départ. C'est la seule explication. Cette puissance paternelle absolue ne peut pas avoir été créée par la simple histoire des structures de la famille, parce que sinon on aurait eu quelque chose comme ce qu'on peut observer en Grèce ou chez les Germains ou etc. dans quantité d'autres milieux. Cette puissance absolue, elle arrive à un moment donné parce qu'on l'a décrétée. On l'a décrétée dans un certain contexte à un moment donné, et on définit le sujet de droit en fonction de ça. Et donc, elle a une importance symbolique majeure dans toute l'histoire de la construction juridique romaine.
C'est toute l'ambiguïté, quoi, j'ai pas l'ambiguïté, c'est le revers de la médaille, pourrait-on dire. C'est-à-dire que le ius crée un droit, et c'est un droit qui consacre la liberté, l'égalité, la propriété, mais aussi cette domination domestique.
Oui.
Et c'est tout cela procède d'une même matrice, d'un même noyau qui est le ius.
Quand je dis qu'il consacre l'égalité, il consacre l'égalité de ceux qui sont sujets de droit.
Oui,
mais évidemment, s'ils se reconnaissent mutuellement la liberté, c'est qu'il y a aussi des esclaves. Oui. Ils en ont des esclaves, mais eux ne sont pas sujets de droit. De même, les gens qui sont soumis à la puissance paternelle, et là le latin aura cette formule, il les appelle les alieni iuris, ceux qui sont soumis au droit de quelqu'un d'autre. Ceux-là ne sont pas non plus des sujets de droit. Mais à l'intérieur du monde limité des sujets de droit, en tout cas, il règne une égalité de principe, et cette égalité va traverser les siècles.
Les siècles. Alors, les auditeurs auront pu se rendre compte à quel point les thèses défendues par Robert Jacob sont à la fois stimulantes, saisissantes et assez nouvelles en ce que vous faites procéder, Robert Jacob, toute votre compréhension de la naissance du droit, de quelque chose d'extrêmement concret, ce barbecue,
oui,
ce pot-au-feu, civique qui va permettre de métaphoriser. Finalement, le sacrifice fournit, c'est une usine à symboles, le sacrifice.
Tout à fait.
C'est une usine à symboles. C'est-à-dire que tout cela permet de comprendre l'abstrait.
C'est une usine, un symbole, et le droit ius, alors, donc cette forme particulière du droit qu'est le juridique à Rome, se constitue comme un abstrait, parce que ces gens qui se reconnaissent mutuellement liberté, propriété et puissance, ces gens-là savent que tout ça est extrêmement fragile. Tout ça est extrêmement fragile,
fiction,
parce qu'ils peuvent être menacés de l'extérieur, ils peuvent être menacés de l'extérieur par des ennemis, peuvent être menacés par des crises internes et nous en avons quelques signes. Après tout, dans une société, les jeunes sont plus vigoureux que les vieux. C'est une constante.
C'est ça.
Donc, supposer qu'un vieux père aura toujours un pouvoir de coercition sur un jeune fils vigoureux, ça, c'est un défi. C'est un défi au réel. C'est un défi au réel social. Et au fond, notre idée du juridique est fondée sur ce défi originaire au réel social.
Robert Jacob, vous avez écrit 2 tomes majeurs, le 3e en 20 secondes, et sur quoi portera-t-il ?
Eh bien, précisément sur ce par quoi nous terminons cette émission, c'est-à-dire sur la conceptualisation. Non, il y a une usine à conceptualiser qui est en marche, donc qui conceptualise le champ juridique dans son arrachement, disons au réel vécu ou au social vécu, mais qui conceptualise aussi une série d'autres choses. Je pensais par exemple à l'acte juridique, c'est-à-dire l'acte juridique, c'est celui qui produit des effets dans ce monde spécial qui a été créé.
Nous attendons avec impatience ce 3e tome, Robert Jacob, les déformes premières du droit en Occident. L'esprit de justice s'est terminé pour ce soir. À la technique, il y avait Olivier Arnet, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Laurence Genepin, une émission d'Antoine Garapon.